Dire que Dieu a créé toute chose, on peut y arriver, disons que Dieu est à l'origine de toute chose, on peut y arriver par la raison, mais on n'arrivera jamais par la raison à un Dieu qui a fait alliance. Jamais on n'y arrivera. Notre cœur aspire à ça, mais il faut une révélation, un Dieu qui se révèle, qui se dit. Pas simplement un Dieu qui est l'horloger ou qu'on monte comme ça avec deux, trois objets. Voilà, je vous prouve l'existence de Dieu. Oui, d'accord, mais la belle, j'allais dire, ça me fait une belle jambe, entre guillemets, en particulier pour moi. Mais bon, mais voilà, mais ça ne fait jamais rentrer en relation. Vous comprenez? Ça ne fait pas un Dieu de relation, un Dieu d'amour. Ça, il faut un Dieu qui se révèle. Alors, il s'est révélé. Et donc, nous, c'est ce qu'on a vu la fois passée, la foi, c'est l'adhésion à un Dieu qui se révèle. L'adhésion de l'intelligence à un Dieu qui se révèle. Mais qui n'est pas contraire à ce que l'intelligence, par ses seules forces, peut découvrir. Vous voyez, il faut vraiment garder les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, tout est expliqué par la parole de Dieu, tout est expliqué par la foi. Non, il y a des choses aussi qui... Dieu guérit par le médecin. Dieu ne guérit pas par miracle en permanence. Dieu laisse, on va le voir tout à l'heure, une certaine autonomie à la création. Il est ce qu'on appelle la cause première, mais nous sommes les causes secondes. C'est-à-dire que, voilà, pour venir ici, c'est pas Dieu qui vous a amené ici. Vous avez pris le train, vous avez pris la voiture, vous avez fait du covoiturage, vous êtes venu à pied, à cheval, bon, il n'y a pas trop de chevaux, mais bon, visiblement... c'est important de dire, il y a un Dieu qui est cause première de tout, mais il y a ce que nous, qu'on appelle être cause seconde, qui laisse une certaine liberté à la création de fonctionner comme elle fonctionne. Il y a des tremblements de terre, c'est pas parce que Dieu le veut, c'est juste que c'est la logique de la création. Alors c'est bien de ne pas se trouver au milieu. Et c'est bien entre autres de ne pas créer des villes au milieu, ça c'est vrai. Mais ça c'est l'homme, ça c'est pas Dieu. Donc juste pour vous dire que il y a vraiment, il faut à la fois lier, il y a une autonomie de l'intelligence et de la foi. C'est-à-dire que l'intelligence peut travailler de son côté, la foi peut travailler de son côté. Mais il n'y a pas de contradiction entre l'intelligence et la foi. Et ça, on doit beaucoup au pape Benoît XVI d'avoir travaillé beaucoup, beaucoup cette question. Parce qu'entre autres, les difficultés qu'on connaît dans le dialogue interreligieux, à 95%, c'est la question du lien entre l'intelligence et la foi. Est-ce que c'est volonté de Dieu? Et donc, je ne peux rien dire. Dès que je commence à faire travailler mon intelligence de Dieu, je blasphème? Ah non, mais non. Si je travaille sur l'intelligence et mon intelligence travaille sur Dieu, ben non, au contraire, comme l'intelligence travaille sur la nature, on blasphème pas. On peut être dans l'erreur ou dans la vérité, mais vous voyez, les questions centrales aujourd'hui sont les questions de lien entre l'intelligence et la foi. Et il y a une légitime autonomie de notre intelligence par rapport à la foi, une légitime autonomie de la foi par rapport à l'intelligence. Alors, c'est des questions peut-être un peu plus ardues, mais justement, c'est ce qu'on voit ici, c'est que il y a une révélation. Avec l'intelligence, on peut découvrir les lois de la physique, mais on ne pourra jamais découvrir avec l'intelligence l'alliance. Parmi toutes les paroles de l'Écriture sainte de 189, sur la création, les trois premiers chapitres de la Genèse tiennent une place unique. Du point de vue littéraire, ces textes peuvent avoir diverses sources. Les auteurs inspirés les ont placés au commencement de l'Écriture, de sorte qu'ils expriment dans leur langage solennel les vérités de la création, de son origine et de sa fin en Dieu, de son ordre et de sa bonté, de la vocation de l'homme, enfin du drame du péché, de l'espérance du salut. Lu à la lumière du Christ, dans l'unité de l'Écriture sainte et de la tradition vivante de l'Église, ces paroles demeurent la source principale de la catéchèse des mystères du commencement, création, chute, promesse de salut. Voilà, donc ça c'est l'Écriture sainte ensuite qui nous révèle des choses. Ça c'est, on connaît déjà, il n'y a pas besoin de... Dieu crée par sagesse et par amour. Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède d'une volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et ainsi elles furent créées. Apocalypse 4, 11. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis, le psaume, et le Seigneur est bonté envers tous, ses œuvres, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. La question de savoir, est-ce qu'il y avait une obligation pour Dieu de créer le monde ? Il n'y a pas une obligation pour Dieu de créer le monde. C'est une gratuité d'amour. Pourquoi il y a eu la création ? Il y aurait pu très bien ne pas y avoir du tout de création. Ce monde-là aurait pu très bien ne pas du tout exister. Il n'y a pas une nécessité. Le monde n'impose pas une nécessité à Dieu. Ce serait le comble. Si Dieu avait des nécessités, c'est-à-dire que, quelque part, de façon obligatoire, ce monde-là devait exister, ben, ce ne serait plus Dieu s'il y avait quelque chose qui s'imposait à lui, justement. Parce que, précisément, la réalité de Dieu, c'est qu'il est le tout, donc il n'a pas de chose qui s'impose à lui. Mais c'est le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres, c'est pour manifester l'amour, son amour de Dieu, et en particulier pour l'homme et la femme, que Dieu a créé ce monde. Il n'y avait pas de raison particulière, si ce n'est que par amour. Donc je trouve ça aussi beau de dire, dès que je contemple la création, je contemple quelque chose de l'amour de Dieu, d'un amour gratuit, d'un amour désintéressé. Et l'homme et la femme sont au sommet de la création. C'est-à-dire qu'ils en sont responsables, c'est ce qu'on a vu ce matin. Ils en sont responsables. Dieu crée de rien. Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien, de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. La création n'est pas non plus une émanation nécessaire de la substance divine. Dieu crée librement de rien. Quoi d'extraordinaire si Dieu avait tiré le monde d'une matière préexistante ? Un artisan humain, quand on lui donne un matériau, en fait tout ce qu'il veut, tandis que la puissance de Dieu se montre précisément quand il part du néant pour faire tout ce qu'il veut. Il crée de rien. C'est là qu'il est Dieu. S'il y avait une matière préexistante, ben voilà, comme dit un artisan, n'importe quel artisan, le ferronnier, il prend du fer, le potier, il prend de l'argile, etc. Et il crée des choses. Mais à quoi on voit qu'il est Dieu ? C'est qu'il crée de rien. Au commencement, il y a le néant. Hein ? Et au commencement, et ensuite la parole de Dieu, c'est intéressant de voir ça, et Dieu dit, la parole de Dieu met un ordre dans les choses. Séparons le ciel et la terre, créons les différentes espèces animales et végétales, ça. Quelque part, la parole de Dieu met un ordre. Alors vous voyez, vous retrouvez ça par exemple chez les juifs pieux, c'est assez intéressant, c'est qu'on ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas mélanger le lacté et le carné. Hein, chez les juifs pieux, parce que il faut même deux frigidaires séparés, parce que sinon on se prend pour Dieu à vouloir tout mélanger. C'est une manière un peu extrême à mon avis d'interpréter, mais c'est intéressant de dire que chez les juifs pieux on peut pas mélanger les couleurs non plus, parce que justement l'idée c'est qu'il y a un tel ordre mis par la parole de Dieu que toute intervention de l'homme qui viendrait mélanger les choses serait là comme une forme d'autocélébration de l'homme et de l'homme qui se prend pour Dieu, quoi. Alors bon, c'est peut-être aller un peu loin, moi je trouve, parce que bon, on peut mélanger le bleu et le rouge sans que on se prenne pour Dieu, je pense pas. Bon, sinon il n'y a pas beaucoup d'art possible, hein. Mais en tout cas de dessin et de peinture, etc. Mais de dire que la parole de Dieu a mis un ordre dans les choses, a mis une beauté dans les choses. Dans cette création, la parole de Dieu a mis en distinguant, alors qu'il n'y avait rien au départ, en distinguant, ben Dieu se dit. Non seulement il dit, mais il se dit. C'est pour ça qu'on peut découvrir dans la création la présence de Dieu. Alors, on ne découvrira peut-être pas le Dieu de l'Alliance, mais ce sera peut-être un chemin, un début de chemin. Il y a des gens, leur chemin spirituel passe par là, passe par la création, le contact avec la nature. C'est comme ça qu'ils découvrent, ils perçoivent de façon un petit peu en demi-teinte, comme à tâtons, ils perçoivent qu'il y a quelque chose de plus grand. Ils savent peut-être pas mettre les mots. Hein, ils voient une grande chaîne de montagnes, un océan magnifique, ils voient. Ils perçoivent qu'il y a d'où ça vient tout ça. Et pourquoi c'est comme ça? Et sans comparer des galaxies, le ciel, etc., où là, pour le coup, on est plongé dans une contemplation extraordinaire. Hein, quand on voit ça, l'infiniment grand. Ouais, vous voyez, mais je pense que ça peut être... Alors, maintenant, une fois que quelqu'un a découvert dans la création, déjà, comme un pressentiment qu'il y a un être transcendant, il n'a pas découvert le Dieu de Jésus-Christ. Il n'a pas découvert l'Alliance. Parce que là, il faut une révélation. Et il faut la foi. Hein? Donc, La foi, 297. La foi en la création de rien est attestée dans l'Écriture comme une vérité pleine de promesses et d'espérance. Ainsi, la mère des sept fils les encourage au martyr. Hein, c'est les deuxièmes de Maccabée, deuxième livre de Maccabée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette foi où c'est une femme qui avait sept fils et on demande aux fils d'abjurer, etc. Et cette femme, au fond, encourage ses fils à donner la vie plutôt que d'abjurer leur foi, etc. Et elle dit la chose suivante: « Je ne sais comment vous êtes apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé le genre humain et à qui l'origine et qui est à l'origine de toute chose vous rendra-t-il dans sa miséricorde l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux et sache que Dieu les a faits de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. » Quelque part, c'est la même chose dans le livre de Job. La contemplation de la création, de la grandeur de la création nous aide à nous dépasser nous-mêmes. Hein, vous vous rappelez dans le livre de Job, quand l'ami Job, qui a un livre sapientiel, c'est pas qu'il y a eu un monsieur Job avec une carte d'identité, etc., et un numéro de sécurité sociale, c'est qu'il y a eu, c'est un peu l'assemblage d'un certain nombre de malheurs qui est arrivé dans l'humanité, qu'on a mis sous le nom de Job. Voilà. Et puis ensuite, ce monsieur Job, alors du coup, au début, il est un peu débouté, il dit « c'est de ta faute, c'est la tradition d'Israël, c'est de ta faute, parce que tes pères ou toi-même ont péché. » Et puis à la fin, il y en a un qui arrive, qui s'appelle Éliu. Éliu lui dit « Regarde autour de toi, là, le ciel, la terre, etc. » Et puis ensuite, il est comme émerveillé, Job, et puis il tombe à genoux et il dit « Bah oui, je ne suis rien. » Hein. Tous les mystiques disent ça. Dieu est tout, je ne suis rien. Hein, hier, on fêtait Thérèse d'Avila. Face à la création, on rentre dans l'adoration. L'adoration, c'est ça. Face à toi, je ne suis rien. Et tu es tout. Et ça, l'adoration. Je me reconnais créature face au Créateur. Donc, quand on parle de création, vous voyez jusqu'où ça va? Ça va jusqu'à l'émerveillement. L'action de grâce. Et même jusque le fait de contempler quelque part la grandeur d'âme, comme cette femme du deuxième livre de Maccabée, voilà, qui pousse ses enfants au sacrifice d'eux-mêmes plutôt que de renier leur foi. Regarde, je ne sais d'où, comment tu es arrivé. Je t'ai porté dans mes entrailles, mais je ne sais pas de quoi tu es fait. Hein, mais moi, je sais qu'il y a un Dieu qui a fait le monde et la terre et la ciel. Il l'a fait de rien. Aie confiance dans ce Dieu-là, qui a fait tout de rien. En la puissance de Dieu, tout puissant. Que ce soit beau ce passage justement du deuxième livre des Maccabées, hein, c'est pour, mon enfant, regarde le ciel et la terre et voit tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a fait de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. C'est par pur désintéressement que Dieu nous a créés et a créé le monde. C'est par pur désintéressement. Dieu crée un monde ordonné et bon. Puisque Dieu crée avec sagesse, la création est ordonnée. Tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. Hein, livre de la sagesse. Créé dans et par le Verbe éternel, hein, on a dit, c'est-à-dire, et Dieu dit, quand Dieu dit, c'est le Verbe, c'est ça, c'est Dieu se dit dans le Verbe. Le Verbe de Dieu, c'est celui qui dit Dieu. Il y a sujet, verbe, complément. Hein, en grammaire, on apprend ça. Sujet, verbe, complément. C'est quoi l'objet, la fonction du Verbe ? De dire une action du sujet. En Jésus, c'est le Verbe de Dieu qui dit tout le sujet. En un seul Verbe, Dieu se dit totalement, c'est ça que nous croyons. Et la personne de Jésus dit tout Dieu. C'est le Verbe, celui qui exprime tout Dieu. En un seul Verbe, en une seule parole, Dieu se dit totalement. Alors que nous, il nous fut une multitude de paroles pour se dire, pour nous dire. Et pour dire ce qu'on pense, parce qu'on n'est pas Dieu. Alors, est-ce que c'est... L'image du Dieu invisible, elle est destinée, adressée à l'homme, image de Dieu, appelée à une relation personnelle avec Dieu. Notre intelligence participant à la lumière de l'intellect divin peut entendre ce que Dieu nous dit par sa création, certes non sans grand effort, et dans un esprit d'humilité et de respect devant le Créateur et son œuvre. Issue de la bonté divine, la création participe à cette bonté. Et Dieu vit que cela était bon, très bon, car la création est voulue par Dieu comme un don adressé à l'homme, comme un héritage qui lui est destiné et confié. L'Église à maintes reprises a dû défendre la beauté de la création, y compris du monde matériel. Parce qu'il y avait une tentation au début dans l'Église, en particulier avec... au début avec le... Parce que pour Platon, vous voyez, pour Platon, un philosophe grec, la matière était le corps était prison de l'âme, et la matière nous empêchait d'aller vers Dieu. Or, ce n'est pas du tout cette option-là qu'a retenu l'Église et la foi chrétienne. Dans la matière, au contraire, il y a un chemin pour aller vers Dieu, comme dans notre corps, il y a un chemin pour aller vers Dieu. Dieu transcende la création et lui est présent. Dieu est infiniment plus présent et plus grand que toutes ses œuvres, sa majesté est plus haute que les cieux, à sa grandeur point de mesure, parce qu'il est le Créateur, souverain et libre, cause première de tout ce qui existe, il est présent au plus intime de ses créatures, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que dit saint Paul, hein, quand il va à l'Aréopage d'Athènes, et il lui dit « En lui nous avons le mouvement, la vie et l'être ». Ça, c'est des notions philosophiques grecques, la vie, le mouvement et l'être. Voilà. Alors, tous les Grecs sont très passionnés, etc. À un moment donné, ils parlent de la passion et de la résurrection, et là, on dit, ben, vous reprendrez en acte 17-28, ben voilà, à un moment donné, on lui dit, ben non, là-dessus, on ne peut pas te suivre. Sur ces choses, nous t'entendrons une autre fois. On peut croire en un Dieu en qui on a le Dieu des philosophes, la vie, le mouvement et l'être, mais on ne peut pas croire en un Dieu qui ressuscite d'entre les morts. C'est pas possible. Et dernier point, avec la création, Dieu n'abandonne pas, je l'ai un petit peu évoqué, sa créature à elle-même. Il ne lui donne pas seulement d'exister et d'être, il la maintient à chaque instant dans l'être, lui donne d'agir et la porte à son terme. Reconnaître cette dépendance complète par rapport au Créateur est une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. Oui, tu aimes tout ce qui existe, tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. Hein, les livres de la sagesse, extraordinaire passage. Hein, voilà, c'est extraordinaire passage. Voilà, c'est ce monde-ci, notre vie elle-même, est maintenue dans l'existence et dans l'être par l'amour de Dieu. Et tout est soutenu dans l'amour de Dieu et dans sa miséricorde. Toute la création. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire cet après-midi. Alors je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus.
Oui,
ah oula, attention.
C'est que entre la science et la foi,
oui.
Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé à partir d'un animal, puisqu'il lui a donné une âme qui est quelque chose qui est lié à eux, à Dieu. Je ne vois pas comment, en progression de l'animal, tout d'un coup, il dirait que l'animal a une âme. Il y a quelque chose qui...
Alors, moi là-dessus, là, j'étais pas présent, là, je peux pas trop vous dire. Mais comment est-ce que s'est fait la création de l'homme, etc. Alors, soit de, il n'est pas exclu de penser qu'il est donné. Bon, là-dessus, c'est des ce qu'on appelle des opinions théologiques. Bon, maintenant que la personne humaine soit le fruit d'une création et non pas le fruit d'une évolution, c'est-à-dire le passage de l'animal à l'homme, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant. Hein, parce que, encore une fois, dans l'histoire de l'évolution, à un moment donné, il y a un chaînon, mais on n'arrive pas à expliquer comment, à un moment donné, par exemple, les hommes préhistoriques ont commencé à enterrer leurs morts. Les animaux ne s'enterrent pas. Comment ils ont commencé à fabriquer des outils? Comment ils ont fabriqué, etc., etc. Bon,
oui,
tout
ça, c'est l'intelligence.
Mais on a.
La différence entre l'intelligence et ce lien à Dieu, quand même. Alors, c'est quelque chose qui est donné, qui donne à l'homme cette possibilité d'avoir un lien à Dieu,
mais c'est par l'intelligence qu'on peut avoir un lien à Dieu, quelque part. C'est par l'intelligence que les personnes, au tout début, c'est intéressant le fait de voir les différents cultes. De tout début de l'existence de l'humanité, dès qu'il y a une personne, dès qu'on parle d'hommes doués d'homme et de femmes doués d'intelligence, il y a tout de suite eu une dimension religieuse.
Oui, mais l'intelligence, c'est
oui.
Parce qu'il retourne à Dieu quand il y a la mort.
Ah, et si.
C'est bien ma question.
Ah, et qu'est-ce qui retourne à Dieu alors?
C'est notre intérieur qui
oui, mais c'est trop vaste, c'est trop vague de dire notre intérieur. Oui, mais notre intelligence et notre cœur, c'est-à-dire notre capacité de connaître et notre capacité d'aimer, c'est ce qui nous différencie des animaux.
La pensée
et l'amour. La pensée et l'amour, la capacité d'aimer, la capacité de connaître, c'est ce qui fait qu'on est différent des animaux et ce qui perdure après la mort, c'est cette capacité d'aimer. Nous connaîtrons. Ah, c'est ce que c'est Jésus lui-même qui dit. Vous connaîtrez comme vous êtes connu à un moment donné, ou c'est dans Saint Jean justement, il parle de le fait de connaître Dieu, le fait d'accueillir dans son intelligence tout l'être de Dieu, c'est ce qu'on appelle la béatitude. De contempler avec mon intelligence celui qui est à l'origine de toutes les choses, et d'aimer avec mon cœur celui qui est à l'origine de tous les mondes. Parce qu'avec quoi, c'est avec quoi sinon vous voulez connaître Dieu? Il faut bien. C'est pas quelque chose de différent. C'est pas quelque chose de différent qui va aller dans le royaume. Je veux dire, c'est bien de notre personnalité.
On,
alors vous serez jugé sur l'amour, donc.
Et ça n'empêche que ceux qui sont avec handicap.
Ah, mais ils n'ont pas. Ils sont pas. Ah, ben personne n'a jamais dit l'inverse. Ah, ben oui, mais personne n'a jamais dit l'inverse. Le fait, comme on dit, les personnes qui sont avec handicap, ils ont. Premièrement, ils ont une intelligence, puis il y a des gens très intelligents et des gens pas très intelligents. Qu'est-ce que dit la petite Thérèse? L'important, c'est qu'il y a différents gobelets, l'important, c'est qu'ils soient tous pleins. Les personnes avec un handicap, on dit les personnes, parfois on dit de façon un peu pudique, les personnes blessées dans leur intelligence, c'est faux de dire ça. Les personnes avec un handicap mental, les personnes trisomiques par exemple, c'est pas tant l'intelligence. Qu'est-ce qui blesse l'intelligence? C'est l'erreur et le mensonge. C'est ça qui blesse l'intelligence. L'intelligence est blessée par l'erreur et par le mensonge. Mais il faut que pour que l'intelligence fonctionne, il nous faut au plan cérébral, au plan de la matière, il nous faut une disposition, il nous faut un corps qui fonctionne bien. Si on vous vide de votre sang, ben vous aurez beau être très intelligent, ça a plu, vous ne pouvez pas vous résoudre un problème de maths. Déjà, dès que vous avez une migraine, bon courage, ou une crache de dents, vous voyez tout de suite que c'est compliqué. Il y a des personnes, comme les personnes qui sont atteintes de trisomie 21, c'est la matière qui est blessée. C'est pas l'intelligence qui est blessée. C'est la matière, c'est la matière dont l'intelligence a besoin pour se développer, pour travailler, etc. Elle a besoin. On n'est pas une intelligence pure comme Dieu. On a besoin d'une matière que le corps et qu'il soit en bonne santé. Les gens qui sont Alzheimer, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est que leur cerveau n'a plus n'est pas assez disposé pour que cette intelligence travaille. Mais ça ne veut pas dire que dans l'au-delà, ils n'iront pas avec leur intelligence, leur volonté, contempler Dieu. Ça, je crois que c'est très important de dire ça, parce que sinon, avec quoi on va contempler Dieu? On va pas. Et c'est ce que j'ai dit la première session. Hein, la foi est dans l'intelligence. La foi élève l'intelligence à des réalités non visibles. La physique travaille, la chimie travaille sur des réalités visibles. La foi travaille sur des réalités non visibles, révélées. Mais c'est des réalités qui demandent notre intelligence pour la comprendre. Ça, c'est capital, parce que sinon on est. Vous voyez, d'où l'importance, par exemple, pourquoi l'Église s'est acharnée depuis le début à travailler dans le monde de l'éducation. Partout où l'Église est arrivée, c'était des collèges, des lycées, etc. Parce que précisément, il y a cette certitude que plus j'éduque la personne, et toute la personne, plus je la rends capable aussi de connaître Dieu. Et plus j'évolue dans mon intelligence, plus je donne une capacité dans mon être d'accueillir Dieu, dans l'au-delà. Mais il faut passer par la porte des pauvres, la première béatitude, hein, heureux les pauvres de cœur, les royaumes de cieux est à eux, c'est-à-dire heureux les pauvres en esprit, il faut que cette intelligence, elle se sache créée. Elle n'est pas à l'origine d'eux. Dans notre intelligence, il y a un combat qui s'appelle l'orgueil. Et ça c'est très important. C'est très, vraiment là, je crois que c'est vraiment. Merci pour votre question, mais c'est très important ça. Nous croyons que en nous, dans la personne humaine, homme et femme, il y a cette intelligence, cette volonté avec laquelle nous aimerons et nous contemplerons Dieu, et nous lui serons semblables. C'est ce que dit. Nous connaîtrons Dieu et nous lui serons semblables. Donc il y a une connaissance. La connaissance, c'est bien par l'intelligence qu'on l'a. Mais pas. Et donc, du coup, je pense que ce qui n'a rien à voir avec l'érudition. Une chose, c'est la capacité d'aimer, la capacité de connaître. Il y a des gens qui sont très simples et qui ont une grande capacité et qui ont un contact avec le réel très sûr, qui ont une foi très sûre. Vous voyez, la foi, il y a des gens qui ont une foi très sûre alors qu'ils ont peu de science. Mais ils ont quelque part cette manière de connaître. Il y a différentes formes d'intelligence aussi. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, des personnes, on voit très bien la petite Bernadette, Bernadette Soubirous, par exemple. On voit une Jeanne d'Arc, on voit, etc. Des jeunes qui n'avaient pas eu beaucoup d'instruction, mais qui pour autant, dans leur vie spirituelle, étaient très sûrs. Hein, Jeanne d'Arc dit « Êtes-vous en état de grâce ?» Paf. Je vous pose la question. Réponse d'une sainte, si je n'y suis pas que Dieu m'y mette, si j'y suis que Dieu m'y garde. Voilà. Si je n'y suis pas que Dieu m'y mette, si je m'y suis que Dieu m'y garde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Ça, c'est les saints. Des fulgurances comme ça, mais parce que c'est leur vie de foi, on voit une vie de foi sûre. Hein, et de fait, elle a clos la bouche de ses détracteurs, Jeanne d'Arc. Donc c'est intéressant de voir comment des personnes qui ne sont pas des érudits, mais qui dans leur intelligence ont une foi sûre, peuvent vraiment être des vrais soutiens. Et vraiment, hein, bon, on a des tas d'exemples comme ça dans l'Église. Hein. Parce que la foi rend intelligent aussi. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Comme la foi élève l'intelligence à des réalités non connues, la foi rend intelligent. Et l'orgueil rend bête même les plus érudits. Ah, ben, bien sûr. Ça, c'est évident. On connaît des tas de gens très intelligents, mais à force d'orgueil, à force d'ego surdimensionné, ils en viennent idiots. Mais idiots. Nous, notre intelligence est toujours doit passer justement par la porte des pauvres. Doit passer par cette béatitude des pauvres en esprit. Cette béatitude des pauvres en esprit, c'est cette humilité. D'autres questions? Oui? Autonomie, oui.
Je m'excuse, voilà. En fait, je n'étais pas tout à fait d'accord.
Ah oui?
J'ai toujours été, je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un d'intelligent, comme on dit, mais j'avais toujours ce pressentiment qu'en fait, la science ne pouvait pas tout expliquer. Les raisons humaines, au contraire, elles ne pouvaient pas subsister
seules. Oui.
Parce que, comme vous dites, il y a toujours quelque chose qui pousse, mais quand on arrive à la fin, au
oui. Alors, ça ne veut pas dire que la science peut tout... Entre autres, la science ne peut pas expliquer le pourquoi, les destinées, pourquoi le mal, pourquoi le... etc., etc., mais qu'il y ait une certaine autonomie, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que le religieux n'a pas à se mêler du scientifique. Le scientifique travaille... Ça ne veut pas dire qu'il va être contre le religieux, là aussi, ce serait idiot, mais... travail de sa propre fonction. Un physicien n'a pas besoin d'être un croyant pour être un bon physicien. Mais c'est là où l'erreur, c'est que on demande aux scientifiques ensuite, c'est un scientifique, donc c'est comme si c'était Dieu le Père, et du coup il nous dit ça, donc c'est la vérité. Non, le scientifique lui aussi est une créature, et donc il doit se rappeler aussi qu'il est créature et qu'il n'est pas Dieu. Donc il y a une autonomie dans le sens où la foi et la raison peuvent travailler de concert, c'est la théologie quand la foi et la raison travaillent ensemble, mais il peut y avoir que la raison elle-même travaille sur le donné physique, visible, hein, c'est le travail du médecin, c'est le travail de tous les scientifiques, etc., etc. Ils peuvent être de très bons scientifiques, du moment qu'ils ne se mêlent pas de vouloir donner les raisons de l'existence de l'homme et ce vers quoi l'homme. C'est là où parfois on fait parler des scientifiques et alors on leur dit ah mais le professeur Intel, ah ben donc c'est quelqu'un de très oui c'est donc mais en matière de destinée finale de la personne humaine, il n'y connaît pas plus que moi ou peut-être moi qui ai la foi, j'en connais plus que lui. C'est vouloir faire dire aux scientifiques des choses qui ne sont pas propres de la science, qui est la destinée finale, l'origine de toute chose et la raison du mal et du salut. Ça, c'est pas la science qui va nous le donner. Alors, c'est vrai que parfois, on a vu des combats entre foi et science, etc., dans le passé, mais je pense que c'est... En tout cas, aujourd'hui, même, il y a l'Académie pontificale des sciences, mais dans cette Académie pontificale des sciences, il n'y a pas que des croyants, par exemple. Il y a des gens, voilà, qui aident à réfléchir sur les réalités scientifiques. Alors, les neurosciences, par exemple, ben, quels sont aussi les enjeux éthiques des neurosciences? Les réalités augmentées, c'est-à-dire qu'on va mettre sur la personne humaine des réalités, par exemple des lunettes qui lui permettent d'avoir une vision, mais bien plus au-delà de ce qu'est capable de voir l'œil humain naturel. Des choses comme ça. Donc, c'est important d'être au courant de ça. Donc, d'avoir des gens qui nous redisent, voilà, l'état de la recherche aujourd'hui. Mais je pense que c'est important. Il faut laisser le champ, hein, rendez à Dieu ce qu'est à Dieu, à César ce qui est à César. Il faut laisser à la science sa propre autonomie. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va nier Dieu ni l'affirmer, mais ni qu'elle a besoin de l'existence de Dieu pour travailler. Elle travaillera sur le domaine créé, sur le domaine visible, avec les microscopes, avec tout, etc. Mais Dieu manque qu'elle ne nous donne pas ensuite les raisons de vivre. Ce n'est pas la science de nous donner les raisons de vivre. D'autres questions, oui?
Sur le numéro 296, la création n'est pas non plus une émanation nécessaire de la substance divine.
Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas penser que Dieu est aussi les trinités de cet amour circulant entre les trois personnes?
Oui.
Alors,
oui, c'est de cet amour entre trois personnes et la création, oui, mais on ne peut pas dire que c'est nécessaire. C'est-à-dire, où est-ce que c'est 96, 296. Il n'y a rien qui s'impose à Dieu, c'est ça. Nous croyons. C'est numéro 2, c'est ça, 296. Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien de préexistant, c'est ça. La création n'est pas non plus une émanation nécessaire. Le mot c'est nécessaire, c'est-à-dire obligatoire. Nécessaire, ça veut dire nécessaire s'oppose à contingent. Contingent, c'est ce qui peut être ou ne pas être. Vous auriez pu être ici aujourd'hui, vous auriez pu ne pas y être. Ça, c'est contingent. Ce n'était pas nécessaire, dans le sens philosophique du terme, que vous soyez là. Comme, voilà, ça ne s'impose pas à votre nature. Alors oui, on peut dire que de cet amour trinitaire, de cet amour divin, ben voilà, il y a un désir. Mais c'est de la gratuité d'amour. Ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire, ça ne s'imposait pas à Dieu de créer le monde. Il aurait pu très bien exister sans que le monde existât. Mais alors, nous n'aurions pas connu son fils. Ben, nous n'aurions pas, on n'aurait pas connu, mais on n'aurait pas été là. Donc déjà, non, mais il n'aurait pas révélé au monde. C'est-à-dire, quelque part, les théologiens, et est-ce que Dieu se serait incarné si l'homme n'avait pas péché? Alors ça, c'est un autre sujet, on verra dans... La prochaine fois, ce sera sur la providence. Hein, donc, parce qu'il faut que je donne des thèmes à chaque fois maintenant. Parce que sinon, c'est sur la providence. Mais ça vient dans Dieu le Père aussi. Hein. Mais c'est important de se dire ça, de dire que il n'y a rien de. À Dieu, rien ne s'impose, sinon il n'est pas Dieu par définition. Ben oui, je pense que c'est nécessaire dans le sens de s'imposer. Comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Nous, c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement que de respirer. Ça, c'est quelque chose qui nous est nécessaire, sinon, voilà, à la nature humaine. Ça s'impose à nous. Pour nous, il y a des tas de choses qui s'imposent à nous. Dans notre corps, par exemple, il y a des tas de choses qui s'imposent à nous. l'alimentation, la boisson, etc. Il y a des choses qui sont... Parce qu'on est un être fragile, et voilà. Mais plus l'être est complet, moins il a de choses nécessaires. Dans le sens qui s'impose à lui. Et a fortiori Dieu, il n'y a rien qui s'impose à lui. Hein, mais il est à l'origine de tout. Ah oui, ça. Ah, je confirme la prophétie. Ah oui. Ah ben oui, ça doit être extraordinaire dans le ciel. Ben, j'espère un peu, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on a la foi, je veux dire. Là, mais j'imagine que quand on entrevoit, mais je bredouille, je veux dire, je suis à des millions d'années-lumière, mais alors de contempler avec notre cœur et notre esprit. Celui qui est à l'origine de toute chose, rien que ça, ça doit être extraordinaire. Et pour l'éternité.
Et pour l'éternité.
Oui, amen. Donc, non, mais c'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien. Et qu'on est tous appelés à ça. Ça, nous le savons par la révélation, pas par la science, mais nous le savons par la révélation. Que toute personne humaine, qu'elle le sache ou non, est appelée à ça. Nous venons, tu nous as fait Seigneur et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne demeure en toi. Ah, il faut que saint Augustin, voilà, tant qu'il on vient de Dieu, puis ensuite il y a un retour à Dieu. Et nous sommes dans ce retour à Dieu, dans la foi, sur cette terre. On retourne vers le Seigneur. Hein, donc, et jusqu'à le contempler face à face. Hein, c'est Dormesson, l'écrivain là, qui disait, pourtant athée, qui dit « La mort serait extrêmement décevante si Dieu n'existait pas. » Pourtant, il est athée, il dit, et puis il est plus proche, à mon avis, de la fin que du début. Hein, voilà, la mort serait tellement décevante si Dieu n'existait pas. Parce que ce serait le réel. Mais alors, on a tellement de... Ben, là, je suis pas. Ben, il se pose. Ben, oui, il sait que plus on avance en âge, plus on se pose la question. Donc, du coup. ben oui, bien sûr. Ça le travaille. Comme ça a travaillé les hommes et les femmes de tous les temps. Pourquoi est-ce qu'on prie les défunts? Pourquoi? Parce qu'on a le pressentiment qu'il y a quelque chose après. Que la fosse ne peut pas être notre futur. Bien, mes amis, sur ces bonnes paroles, je vous laisse.